Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
Bonjour à tous, Motors en direct sur RMC et en simultané à la télé sur RMC Sport News jusqu'à 14h. Salut Jean-Luc Roy.
Salut Louis Amar, bonjour à tous.
À la une ce dimanche, du Rallye Raid. Dans un instant, nous serons avec Jean-Louis Schlesser, le patron de l'Africa Eco Race, qui partira dimanche prochain de Monaco pour rallier Dakar. Au programme également le MotoGP. Hervé Poncharal sera notre invité, le patron du team Tech 3 qui entame un partenariat avec KTM en 2019. Et puis la F1 dans Radio Paddock. C'est parti pour Motors, bienvenue à tous.
RMC Motors, le tour de chauffe.
Lucas Vinoy également est avec nous. Salut Lucas.
Salut Louis, salut Jean-Luc.
Bonjour, journaliste RMC Sport, spécialiste sport méca. Dans un instant, nous serons avec notre invité Jean-Louis Schlesser, le patron de l'Africa Eco Race, qui partira donc dimanche prochain de Monaco. Avant de l'accueillir, juste un mot avec toi Jean-Luc. Qu'est-ce que tu penses de cette course? Comment tu la juges? Et est-ce qu'elle peut, dans le cœur, dans l'esprit des gens, détrôner un jour le Dakar?
Question délicate et mais pertinente évidemment, dans la mesure où, on l'a dit, cette épreuve se déroule en Afrique et le Dakar évidemment restera intimement lié à l'Afrique quoi qu'il arrive, déjà de par sa dénomination, puisque le Dakar c'est un nom générique, c'est d'abord le nom d'une ville, on le rappelle à chaque fois, la capitale du Sénégal, où se terminait le Paris-Dakar de l'époque Thierry Sabine et après organisé également par Gilbert Sabine et par ASO. Donc il a fallu malheureusement pour des raisons géopolitiques émigrer pour le Dakar en Amérique du Sud. On sait que cette année, et nous avons eu Stéphane Peter Hansel dans cette émission la semaine dernière, ce sera malheureusement cantonné, je dis malheureusement parce que sur un seul pays c'est la première fois que ça arrive, cantonné au Pérou. Maintenant cette épreuve se déroule au départ de Monaco, on parle de l'Africa Eco Race donc avec Jean-Louis. C'est sûr que dans le cœur, j'allais dire, de beaucoup de gens, même si on ne traverse plus la France comme c'était le cas, et ça on peut le regretter aussi parce que moi j'ai des souvenirs formidables de cette descente qui était comparable véritablement au Tour de France, hein. Les estimations à l'époque étaient moins précises qu'aujourd'hui, mais on parlait de 1 à 3 millions de personnes un 1er janvier le long, et moi c'est très souvent que j'ai des gens qui viennent nous dire, on vous regardait passer et on savait que vous partiez vers le désert. Donc oui, je réponds à ta question, c'est clair que si le Dakar ne trouve pas un deuxième ou plutôt un troisième souffle après l'Amérique du Sud, oui, il y a peut-être un risque qu'effectivement, un risque ou en tout cas une probabilité, ça n'est pas un risque, que cette épreuve, l'Africa Eco Race, puisse prendre la place dans le cœur en tout cas de certains anciens, oui.
Lui aussi sera bientôt dans le désert, il est l'invité de Motors en ce dimanche, Jean-Louis Schlesser, patron de l'Africa Eco Race. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour à tous et bravo Jean-Luc pour ton résumé.
Ça, ce sont deux vieux amis qui se retrouvent ce midi sur RMC et sur RMC Sport News. Première question, Jean-Louis Schlesser, on est donc à une semaine du départ, je l'ai dit, qui sera donné à Monaco dimanche prochain. Est-ce que tout est prêt? Comment vous vous sentez à une semaine de l'échéance?
Bon, écoutez, nous, c'est un travail au quotidien toute l'année, hein, parce que pour monter ça, on n'est pas beaucoup, et pour réussir l'épreuve, eh bien, il faut aller voir les pays, voir les ministères. Enfin, c'est un gros travail. On est prêt, oui, bien sûr, on est prêt.
Jean-Luc.
Oui, Jean-Louis, on va résumer hein, les grands chiffres. Effectivement, c'est plus de 6000 kilomètres. Donc, on rappelle que l'épreuve se déroule du 30 décembre au 13 janvier, avec un départ de Monaco. Et puis, tout de suite, on franchit. Alors, il y a trois pays africains traversés. Et ça, on les connaît bien. Hein, mais la question que j'allais te poser, est-ce que c'est difficile de se renouveler? Donc, ces trois pays, naturellement, c'est le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. Est-ce que c'est difficile de renouveler le tracé de l'épreuve chaque année?
Alors, ça, c'est une super question pour moi, parce que justement c'est sur ce point, on insiste vraiment sur ce point, dans notre course, aussi bien au Maroc, on arrive à trouver des pistes, que tu sais que René travaille toujours avec nous,
bien sûr, René
essaye toujours de trouver des endroits un petit peu magiques, mais c'est surtout en Mauritanie, où là on reste quand même 6 jours, et effectivement, même si les noms des grandes villes ou des villes est identique à l'année précédente, tu sais comme moi que d'une année sur l'autre, dès qu'il y a une petite tempête de sable, eh bien, tout s'efface. Et on va aller aussi dans des endroits assez mythiques cette année, qui sont Shingeti et Wadan. On passe de l'autre côté de Wadan. Donc, c'est un endroit que tu connais, bien sûr, et oui, c'est extrêmement difficile de rouler sur les dunes, surtout dans le sens où on va le faire, avec le soleil en face. je veux dire, les concurrents vont avoir de belles difficultés.
13h09 sur RMC et sur RMC Sport News. Jean-Louis Schlesser, le patron de l'Africa Ecorace, est l'invité de Motors en direct. Jean-Louis, on va revenir évidemment sur le parcours. On vient de l'évoquer brièvement avec Jean-Luc. D'abord, le slogan de l'Africa Ecorace. Le seul rallye tout-terrain africain qui arrive à Dakar. La référence est explicite, limpide. Vous jouez le jeu des comparaisons avec le Dakar. Nous aussi, on va le jouer avec toi, Lucas Vinois. On compare les chiffres de l'Africa Ecorace et du Dakar. Alors évidemment, il y a une course qui est beaucoup plus jeune historiquement que l'autre.
En effet, on a une 11e édition donc pour l'Africa Ecorace, la 41e pour le Dakar. Le Dakar qui est une marque, hein, le disait Jean-Luc tout à l'heure. 4000 km de spécial pour l'Africa Ecorace, seulement entre guillemets 3000 pour le Dakar. Donc on a une course chronométrée plus longue pour l'Africa Ecorace. 12 étapes, pareil, un petit peu plus long, 12 étapes pour l'Africa Ecorace contre seulement 10 entre guillemets au Dakar. 3 pays traversés pour l'Africa Ecorace, un seul cette année pour le Dakar. C'est peut-être un petit peu là où le bas blesse cette année en 2019. C'est vrai qu'on avait l'habitude de la Bolivie, on avait l'habitude de l'Argentine. Il n'y aura pas tout ça cette année en Amérique du Sud. Alors par contre, plus de pilotes engagés du côté de l'Amérique du Sud, 167 motos équates, 126 autos, 41 camions, 61 nationalités, 17 femmes contre l'Africa Ecorace, 166 pilotes engagés, 50 motos, 92 autos et 24 camions, 28 nationalités, contrairement aux 61 du Dakar, et 4 femmes. Donc on voit quand même que la gente féminine s'immisce peu à peu dans l'univers du rallye raid.
Jean-Louis Schlesser, comment expliquez-vous que votre course pour l'instant attire moins de monde que celle que vous voulez concurrencer?
Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Et je voudrais juste revenir aussi une chose, c'est ce que disait tout à l'heure Jean-Luc, on est sur les traces de Thierry Sabine, c'est un petit peu aussi notre slogan. Pour expliquer le fait que nous avons moins de compétiteurs, et c'est tout à fait logique, puisqu'on est sur les mêmes dates que le Dakar qui se déroule en Amérique du Sud. Et nous sommes une course, disons, plus vraie et plus authentique. C'est-à-dire que chaque soir, il n'y a pas d'hôtel 3 ou 5 étoiles, et on ne fait que des bivouacs. Notre épreuve, elle est faite pour des gens qui veulent vivre quelque chose de dur. Là-bas, c'est pas forcément dur, puisque quand on est chaque soir dans son lit, c'est pas du tout pareil. Et c'est la grosse différence, c'est que nous, c'est l'aventure avec un grand A, l'entraide avec un grand A, et nous avons aussi des règlements qui sont un petit peu différents de ceux de l'Amérique du Sud.
Mais voilà. ça veut dire concrètement que pour vous, le Dakar, c'est embourgeoisé?
Ah, complètement, oui. Même à mon époque, ça avait commencé. Parce que de toute façon, on allait, nos bivouacs se déroulaient que sur des aérodromes. Alors que nous, vraiment, on fait tout pour ne pas y être. Et on n'y est pas, d'ailleurs. On n'est pas sur les aérodromes. Des aérodromes. Nous sommes complètement dans la nature. Ce qui fait que notre épreuve a tout son sens. Mais tout doucement, vous savez, nous, on ne cherche pas à se comparer au Dakar, hein, parce que c'est une épreuve qui existe, comme l'a dit tout à l'heure très justement Jean-Luc. Moi, j'ai eu beaucoup de titres et de victoires sur le Dakar, bien sûr. Je ne cherche pas, mais nous, on est dans l'authentique, sauf pour ce qui concerne les transmissions télé, radio et autres. Hein. On n'utilise que des moyens modernes. Par contre, le vécu, c'est le vécu comme ça doit être pour moi un rallye raid. C'est bien ce nom-là, un rallye raid. Il faut garder ce nom et pas faire autre chose.
Jean-Luc.
Oui, il faut rappeler, et Jean-Louis évidemment a raison de revenir là-dessus, que le Dakar, c'était le Paris-Dakar, puisqu'on l'appelait comme ça à l'époque, hein, puisque nous partions de Paris à Dakar, et qui a été lancé et créé par Thierry Sabine, il faut toujours le rappeler. C'est pour ça que Jean-Louis a raison de dire aussi sur les traces, évidemment, de Thierry Sabine, puisque à l'époque de Thierry, le Dakar évidemment se déroulait en Afrique. Donc c'est une évidence qu'il y a un état d'esprit. Et c'est vrai que les bivouacs, Jean-Louis l'a évoqué, lui qui l'a emporté effectivement à plusieurs reprises et qui a remporté, il faut le rappeler aussi, il est trop modeste pour le dire, 6 fois quand même cet Africa Ecorace avant de l'organiser lui-même avec ses buggies fabriqués par lui-même. Donc il faut juste dire que effectivement, moi je ne critique, il n'est pas question ici de critiquer le Dakar, c'est pas ce que je veux faire en tout cas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand on ne retrouve pas les grandes équipes au bivouac parce que les champions sont partis entre guillemets dormir à l'hôtel qui est assez proche, c'est regrettable parce que c'est un état d'esprit qu'on a tous connu le soir en arrivant très tard, où on entendait, on écoutait, alors que nous-mêmes on était en train de mécaniquer, enfin je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais on entendait les pilotes qui arrivaient les uns après les autres et qui se rapprochaient de cette lumière, et puis on passait la nuit à mécaniquer, on entendait les groupes électrogènes, on entendait les soudures, on entendait les essais de moteurs, et le matin c'était pareil. Donc voilà ce qu'on peut encore trouver effectivement dans l'Africa Eco Race et qui est unique.
Alors simplement, là je voudrais partager avec vous, messieurs, mon expérience personnelle, puisque j'ai eu la chance pour RMC de couvrir deux Dakar, c'était en 2016 et en 2017. Franchement, les pilotes, et pour parler des principes du team principal, c'est-à-dire Peugeot avec Sébastien Loeb, ils dormaient au bivouac, hein. Alors c'est vrai,
ça c'est bien,
plutôt dans un motorhome que dans une tente, mais il n'y avait pas, pardon Jean-Louis Schlesser, il n'y avait pas d'hôtel 4 étoiles, il n'y avait pas d'hôtel 5 étoiles, on entendait des bruits de gens en train de mécaniquer dans la nuit, donc on est encore quand même dans cet esprit d'aventure. Vous grossissez un peu le trait, Jean-Louis.
Non, ils étaient dans des motorhomes climatisés, non.
Climatisés, nous... c'est vrai, mais enfin on était loin de la quatrième étoile, hein, pardon.
Oui, mais il y a des motorhomes qui sont 3 étoiles ou 2 étoiles ou 5 étoiles, peu importe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on dort tous sous la tente et voilà, on est tous là. C'est pas du tout le même état d'esprit, voilà. Et comme disait Jean-Luc, c'est très juste, hein. Moi, des fois, je peste contre des concurrents qui rentrent tard et qui réparent leur générateur qui essaie de ressouder une pièce, voilà. Et ça, c'est vraiment ce qui fait le charme de l'Afrique. Et puis, on a un côté nostalgique. On va dans des dunes. Vous savez, il y a une chose qui est importante, c'est qu'on ne remplacera jamais l'Afrique. Voilà, l'Afrique, ça reste l'Afrique, et la Mauritanie, bien ça sûr. Reste l'Afrique. Donc, on ne peut pas la transporter au Pérou, aussi beau soit-il.
Jean-Louis Schlesser, le patron de l'Africa Eco Race, est l'invité de Motor sur RMC et RMC Sport News. Question de Lucas Villeroy.
Bonjour Jean-Louis, petite question, vous qui vous rendez donc encore en Mauritanie, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel point la Mauritanie doit être la pierre angulaire d'un rallye raid?
Eh bien, ça c'est super, parce que la Mauritanie, justement, c'est un pays exceptionnel, et ça, je sais pas comment le décrire, mais Jean-Luc, faudrait faire une émission là-dessus. C'est vraiment un pays extraordinaire, et à sa tête, le président qui est là depuis une dizaine d'années, a transformé le pays au niveau sécuritaire, et je dois dire que grâce à la Mauritanie, tout ce qui est autour est sécurisé. Donc nous, on en bénéficie. Et je veux dire que aller sur la Mauritanie, pour nous, ça donne aussi la possibilité à des gens ou des touristes de retourner en Mauritanie et d'aller visiter la Mauritanie, qui est un pays magnifique et qui est vraiment... Alors, donc, bien sûr, nous restons sur le côté ouest de la Mauritanie parce que c'est beaucoup plus beau, d'ailleurs. Mais je ne désespère pas, par exemple, l'année prochaine, d'aller vers Tijika ou Kifa, parce que la route de liaison est en train d'être finie. Il reste 5% à finir. Et pour la bonne et simple raison, c'est que je ne veux pas que les assistantes aient à faire le tour par Nouakchott, comme le connaît, enfin, pour les anciens, de venir d'Atar, retourner Nouakchott, ensuite retourner sur Tijika. Ça fait bien trop long.
Mais c'est une question, Jean-Louis, c'est une question de longueur ou une question de sécurité?
Non, ça sera plus long. Ah non, ben, de toute manière, là-bas, chaque jour, on fait 4 à 500 kilomètres, et je peux vous dire que pour nous, la Mauritanie, c'est exceptionnel, puisqu'on part d'un bivouac, pour les compétiteurs, je parle, hein, on part d'un bivouac, et le compétiteur arrive au prochain bivouac. Donc ça, c'est c'est l'absolu, quoi, pour les gens qui font du rallye raid, c'est génial. Et on a une épreuve aussi marathon, on appelle ça les 500 miles sur Mauritanie, donc, il y a 800 kilomètres qu'on sépare, mais en marathon, ce ne sont que les véhicules qui sont marathon, parce qu'on ne veut pas se séparer des compétiteurs qui restent avec nous au bivouac le soir, avec les assistances. Tout le monde est dans le même bivouac, sauf que les véhicules, eux, n'ont pas droit de réparer ni de faire quoi que ce soit, sauf sur le temps de course le lendemain. C'est-à-dire, s'ils repartent, bah, tant pis, ils repassent à leur assistance, mais ils perdent du temps.
Oui, Jean-Louis, deux questions en une. La première, tu parlais de la Mauritanie, effectivement, bah c'est la partie la plus importante, on va dire, notamment la fameuse boucle d'Amodjar, là, que tu vends bien. Oui, je pense que ça va être absolument, absolument génial, parce qu'effectivement, on a tous des souvenirs fantastiques de ces paysages. Et puis, j'ai trouvé dans la dénomination, alors, la momie, ça c'est au Maroc, et le Fort Chacal. Là, on peut dire que tu nous le vends bien, hein.
Mais exactement. Ah, mais c'est un endroit extraordinaire, le Maroc. Bon, de toute façon, tout le monde, je vais pas vendre le Maroc, parce que le Maroc, tout le monde connaît, c'est un pays extraordinaire. Et c'est vrai qu'au Maroc, on a des endroits, nous, c'est pareil, et on a fait le choix de ne pas aller, on n'est pas proche des villes, voilà, c'est pareil pour le Maroc, on a que des bivouacs magnifiques, hein, bien installés, on a un prestataire là-bas qui nous fait des choses depuis des années, depuis 10 ans, des bivouacs exceptionnels, magnifiques, des bivouacs marocains. Et la momie, bien sûr, c'est pas loin de Merzouga. Ouais. Ça fait rêver beaucoup de gens, mais écoute, hein, que les gens viennent nous voir et puis ils verront ce que c'est que l'Africa et Corrèze, quoi.
Lucas, vous dites qu'il n'y a pas de comparaison, vous ne faites pas la compétition avec le Dakar, mais votre slogan est quand même explicite, comme le rappelait Louis tout à l'heure. Vous êtes sur les mêmes dates que le Dakar. Quel est le but de l'Africa Eco Race? Quel est votre souhait? Est-ce que vous avez un objectif particulier, peut-être de surpasser à terme le Dakar, mais est-ce qu'il n'est pas nécessaire donc de décaler sa date, de trouver un autre moment dans l'année?
Je pense pas que nous, on est là, on a réussi à monter tout doucement en puissance malgré cette date. La date, elle est traditionnelle. Nous, on n'a pas trop de soucis. On n'a pas de possibilités de changer la date. Pour la bonne et simple raison, c'est que un mois plus tôt, en Mauritanie, il fait très chaud et un mois plus tard, il fait aussi très chaud. Par contre, pendant notre épreuve, on est à 28-30 la journée. Ça, c'est juste un problème. Et puis, on a beaucoup de compétiteurs qui nous demandent de participer, enfin de pouvoir partir entre Noël et Nouvel An, parce que des gens prennent leurs vacances et ils sacrifient leur congé à l'épreuve. Donc être sur eux, et puis la taille, ce que vous disiez tout à l'heure, notre souhait, c'est peut-être de grossir 30%, puis voilà, parce qu'on est équipé pour 30%, et nous la sécurité, c'est une chose qui est primordiale. On n'a pas eu d'accident enfin grave depuis le début. Et ça, j'y tiens absolument. Donc, on est dans un concept. On a 50 motos. Bon, mais voilà, basta, quoi. C'est pas la peine de prendre 150 motos parce que après, on maîtrise plus. S'il y a un accident, moi, je souhaite pas qu'il y ait des accidents, hein, mais il faut quand même être derrière tous les concurrents. Aujourd'hui, on a tous les concurrents, par exemple, ont tous un Iritrack, donc on sait où sont les concurrents toute la journée et les assistants. Donc, vous voyez, c'est on est sur un autre format. J'annonce pas du tout de Dakar. Moi, je vous dis, j'ai gagné 2 fois le Dakar, donc, et puis 14 fois en 2 roues motrices. Alors, vous savez, mais les gens viendront tout doucement, vous verrez.
Est-ce que, pour prolonger la question de Lucas, Jean-Louis Schlesser, on peut envisager à terme une fusion des deux épreuves? Est-ce qu'il n'y a pas un côté un petit peu ridicule à voir deux rallye raids se tenir au même moment sur des formats quasiment identiques sur deux continents différents?
Peut-être que les concurrents de chez eux viendront à nous, effectivement, parce que nous, on reste la dernière épreuve marathon. Hein. On est les seuls à être sur 3 voire 4 pays.
C'est vous qui allez absorber, alors.
On part de Monaco. Ben non, mais c'est vrai. Eux, ils sont juste sur le Pérou. Donc, c'est une question de choix. Hein. Je crois que, de toute façon, moi, je surveille les règlements et j'essaie d'être beaucoup plus logique dans ce qui va être le futur. Le futur, on peut pas continuer à aller et rouler partout. Vous savez, c'est dans l'esprit des gens, ça. Donc, on veut, nous, essayer de réduire la puissance des véhicules. On veut essayer de faire quelque chose qui fasse que les concurrents en chient un peu plus dans le sable. Aujourd'hui, ça devient un petit peu trop facile parce que les voitures sont très performantes. Les pneumatiques aussi, donc il faut arriver à réduire la puissance des véhicules, et en réduisant la puissance, eh bien, on va moins produire de CO2, et puis etc. quoi.
Oui.
Voilà, donc on est dans une autre façon de voir les choses.
Accessoirement, Jean-Louis, je pense que pour relever le moral des concurrents, il y a peut-être Adriana Carambeu qui sera au départ, c'est ça, c'est la marraine de l'épreuve.
C'est gentil, je vois que c'est très fort. Mais oui,
écoute, c'est pas compliqué.
Comptez sur toi, qui est un peu plus grand que moi. Moi, je fais 1m80 et dépasse.
Oui, je dois faire 2 cm de plus que toi.
C'est une fille extraordinaire, une femme extraordinaire. Elle est là parce qu'elle aime ça. Elle habite aussi à Monaco, c'est ce qui a facilité les choses. Et comme elle a travaillé pendant longtemps pour la Croix-Rouge, d'ailleurs, je crois qu'elle travaille encore, mais elle se réjouit d'être notre marraine. Voilà, c'est une question d'amitié avant tout et de passion.
Juste pour être plus. Pour être plus sérieux, Jean-Louis, enfin, c'est pas que Adriana ne soit pas sérieuse, c'est pas ce que je voulais dire. Simplement, ce qui est important, je me rattrape. Ce qui est important, c'est de préserver, en tout cas, la cohabitation. Et ça, moi, je trouve que ça, c'est fantastique entre les motos. Jean-Louis l'a dit, limité à 50, parce que c'est vrai que, malheureusement, quand on accepte plus de concurrents, on accepte aussi des pilotes qui sont moins expérimentés. Donc, le risque de blessure est très important. Et on le sait, dès qu'il y a plus de motards, il faut une couverture médicale, comme Jean-Louis l'a souligné, beaucoup plus importante. Et puis donc, 92 autos et motos et 24 camions. Et ce qui est fantastique, Jean-Louis, et tu me diras pas le contraire, c'est effectivement de partager la piste. Et là aussi, il faut rappeler que la piste est unique pour l'ensemble de ces 3 types de concurrents.
Oui, la piste, alors nous, on est exactement. Donc le classement est confondu camion-auto. Donc ça, c'est aussi une spécificité à nous. On est la seule épreuve comme ça. Et on a, faut pas oublier qu'on a 3 hélicoptères. Hein. On a 22 personnes au médical. On a 6 voitures sur la piste pour une épreuve quand même qui n'est pas aussi grosse que le Dakar, qui est bien plus petite que le Dakar. Donc je tiens à souligner que nous, notre maître mot, c'est quand même la sécurité des participants. Et voilà, donc chaque hélico, il y en a un qui est pour la télé, un autre pour le médical et un autre direction de course, mais les deux hélicos télé et direction de course sont capables de devenir médicaux en instantané, quoi.
Jean-Louis, une dernière question, départ donc dimanche prochain depuis Monaco. Pourquoi Monaco? Est-ce que c'est pas un peu paradoxal de promettre l'enfer aux compétiteurs en les faisant partir de la principauté?
Eh ben, écoutez, c'est un petit clin d'œil, parce que Monaco, quand même, ça reste le temple du sport automobile. Hein. Il y a la Formule 1, il y a le rallye de Monte-Carlo, et on s'est dit, bien, pourquoi pas faire un rallye raid, et puis Monaco aussi. Ils ont parce qu'on n'a pas suffisamment développé ça dans notre, malgré que l'interview a été extrêmement sympathique, je vous remercie d'ailleurs. À Monaco, il y a une association qui s'appelle l'AMAD, et qui a été créée par la princesse Grace en son temps, et c'est une association qui aide les enfants. Et donc nous, on s'est associé à eux. Il y a une usine qui fabrique des lampes au Burkina Faso, donc c'est vachement bien pour nous, c'est du produit qui est fabriqué en Afrique, et chaque concurrent a la possibilité d'acheter des lampes qui vont servir aux enfants qui sont en difficulté pour rentrer, par exemple, de l'école chez eux, ils auront de la lumière, pour faire les devoirs le soir, de la lumière, ce sont des lampes qui se rechargent avec le soleil.
Le soleil, oui.
Et donc, si un concurrent achète 6 lampes, ben, ça couvre en CO2 sa participation de Monaco à Dakar.
Et voilà, c'est mal. Pour ça l'Africa et Corrèze. Ouais. Allez, une dernière question, Jean-Louis, parce que le départ,
je vous motive, là, tous.
Oui, oui. Le départ, c'est le 30. Pourquoi pas le départ le 1er janvier? Alors là, tu remettrais effectivement les pieds dans les patins de Thierry. Tu dois y penser, non?
Alors, on a réussi à le faire. C'est super, mais on a essayé d'arriver un mercredi une fois ou un jeudi, je sais plus pourquoi, en partant justement le premier. Et là, c'est la cata, parce que c'est bien pour nous, mais ça devient un petit peu égoïste, parce qu'à l'arrivée, on a beaucoup moins de gens qui peuvent venir le mercredi sur la course. Voilà, c'est une question de c'est à cause du dimanche, en fait.
Merci beaucoup, Jean-Louis Schlesser, d'avoir été avec nous.
Salut, Jean-Louis.
Merci à vous, à vous tous. Merci beaucoup.
Vous entendez, hein? Jean-Patrick Capdevielle, canté dans le désert depuis trop longtemps. Et oui, brillante inspiration de notre réalisateur, Sacha Rosenberg, qui ne recule devant rien. 13h27, vous écoutez RMC, vous regardez RMC Sport News, la suite de Motors dans un instant, avec Radio Paddock, toutes les dernières nouvelles de la F1, et puis dans un petit quart d'heure, la moto. Notre invité, le patron du Team Tech 3, Hervé Ponchara, là tout de suite.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
Bientôt 13h30, vous écoutez RMC, vous regardez RMC Sport News. On est ensemble jusqu'à 14h avec Jean Lecroix, avec Lucas Vinois. Dans un petit quart d'heure, notre invité, Hervé Poncharal, le patron du Team Tech 3, pour évoquer la saison qui arrive en MotoGP. Deux Français seront sur la grille, hein, Johan Zarco et Fabio Quartararo dans la catégorie Rennes. Mais tout de suite, Radio Paddock.
RMC Motors. World Champion! Oh my God! Radio Paddock.
Lucas Vinois est là pour ça, pour Radio Paddock. En l'absence de Benoît Boutron, qu'on salue, qu'on embrasse évidemment, un habitué de Motors qui n'est pas là ce week-end. Lucas, de la F1 dans Radio Paddock, et on commence par le Grand Prix de France. On a le montant des retombées.
Exactement.
De ce retour de la France au calendrier de la F1.
Là, c'est ça, on parle de 78 millions, selon les chiffres du cabinet Deloitte, 74 000 billets vendus, dont 43 000 ont été vendus à des personnes vivant en dehors de la région PACA. Donc, le Grand Prix de France qui a attiré du monde un petit peu partout en France et même ailleurs en Europe et même des Américains, et surtout 550 emplois créés et conservés et liés directement à l'organisation du Grand Prix de France. Donc de ce côté-là, c'est une réussite.
Ouais. Paris tenu.
Paris tenu, et je crois que c'est très important. Il faut rappeler qu'on le doit à Christian Estrosi, hein. Il faut lui rendre justice et hommage. C'est lui qui a repris le bâton de pèlerin, puisque ce Grand Prix de France, on l'espérait, et j'avoue que je ne renie pas ce que j'avais dit il y a encore quelques années, je n'y croyais plus, parce que je ne voyais pas où en France on pouvait avoir l'énergie nécessaire, la volonté nécessaire et l'investissement nécessaire. Eh bien, la région PACA l'a eu, donc il faut remercier évidemment Christian Estrosi et toute son équipe. Il n'était pas tout seul, Gilles Dufaigneux, etc. Et puis effectivement, bah c'est formidable de vérifier que les retombées qui étaient estimés, qui étaient souhaités, eh bien, sont vérifiés maintenant, cautionnés. Je crois que plus personne peut être contre la Formule 1 en France. Tout le monde doit être pour et pousser derrière. Voilà, c'est dit.
Vous aviez, messieurs, la chance d'y être oui. pour RMC. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qu'il faut améliorer dans ce Grand Prix de France? Comment vous l'avez ressenti, vous, sur place?
Alors, on va évacuer tout de suite.
L'accès au circuit.
L'accès au circuit, qui est surtout le premier jour. Bon, mais ils s'en sont rendu compte. Ça allait un peu mieux le samedi. On va dire que c'était potable le dimanche, mais bon, il y a vraiment des progrès à faire, surtout que les consignes qui soient données à tout le monde, y compris aux forces de gendarmerie, je les désigne clairement, soient appliquées. Voilà, c'est très simple. Bon, je crois qu'on va y arriver. La première édition, elle
sert toujours. Les mesures vont être données d'ici quelques jours.
Voilà. Donc et puis un plan de circulation peut-être plus simple, là aussi, et plus intelligent, j'ose le dire. Bon, c'est à peu près la seule chose. Il y a eu un gros orage après le Grand Prix dimanche, donc ça, je plaisante. Hein, je fais exprès.
On essaiera de l'éviter.
Le reste, bah écoute, je crois que c'est une réussite, c'est une réussite populaire, Lucas vient de le dire, avec 74 000 billets vendus réellement, ça veut dire que c'est une belle affluence pour la Formule 1 aujourd'hui, et qui peut-être ne peut que se développer. Au niveau effectivement du tracé, on avait des questions également, on se posait des questions là-dessus, avec ou sans chicane. Bon, avec la chicane, ça a fonctionné globalement, je crois que les pilotes étaient contents. On a eu, bon, une course qui aurait pu être plus disputée, mais ça, on prévoit pas, puis l'accrochage, tu t'en rappelles comme moi, dans le premier virage, à l'entrée des S de la VRI, donc ça a éliminé malheureusement certains des favoris, mais bon, c'est très bien, on va dire, peut mieux faire, voilà.
Est-ce que vous pensez que ce Grand Prix peut rééditer l'exploit d'attirer autant de monde, parce qu'il y avait l'effet retour, l'effet première de la nouvelle vie du Grand Prix de France? Est-ce que ça peut s'inscrire dans la durée?
Oui, bah la réponse elle est simple pour moi. C'est Pierre Gassi, sera chez Red Bull l'année prochaine,
et donc peut-être Charles Leclerc,
voisin, donc ils seront sûrement en mesure via des monoplaces performantes de jouer devant, podium, peut-être plus, on l'espère, peut-être la gagne. Donc ça, naturellement, ça va amener du monde. Et puis peut-être qu'il y en a qui attendaient de voir si la première année ça allait fonctionner pour venir l'année suivante. Certains ont aimé, ont apprécié et vont revenir. Donc oui, il y a tout pour que le Grand Prix de France soit une fête populaire. Oui.
On enchaîne, Lucas, on continue avec la F1. On l'a beaucoup dit dans les commentaires en direct pendant les Grands Prix. Ici même dans Motors, la F1 est un sport qui se joue en piste, mais aussi beaucoup dans la tête. Et ça, Mercedes l'a parfaitement compris.
Oui, mais on pourrait croire et on pourrait être étonné justement de cette information. Mais Mercedes utilise des psychologues tout au long de la saison à l'intérieur de son équipe. Pourtant, ce n'est pas une écurie en crise, loin de là. Il n'y a plus de problème en interne entre Hamilton et Rosberg, on n'est plus là-dessus, mais quand même, il faut garder le moral des troupes intact et surtout garder cette motivation, toujours se remettre en question pour continuer à gagner, et c'est là-dessus que travaillent les psychologues.
Et oui, c'est tout à fait normal finalement, parce qu'une équipe de Formule 1, là aussi on en voit la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire les personnes qui sont présentes sur le circuit, qui sont, allez, on va dire au nombre de 200-250 pour les grandes équipes, mais il y a des centaines de personnes qui travaillent évidemment dans l'ombre, qui continuent à développer au plan aérodynamique, au plan des motoristes, enfin, etc. Et ces gens-là, il faut les garder motivés, surtout quand on gagne depuis aussi longtemps et que ça paraît de l'extérieur aussi facile, parce que ça n'est jamais facile. Donc Toto Wolff tient à le souligner et à le rappeler. Et puis on rappelle aussi une chose, c'est qu'à la tête de tout ça, et je pense que c'est sincère, Lewis Hamilton le dit, moi je suis celui qu'on voit le plus, bien sûr, parce que je décroche les titres de champion du monde. On rappellera le titre de Nico Rosberg au milieu de cette saga depuis 2014, mais se maintenir au plus haut niveau, c'est peut-être, tous les grands champions le disent, ce qui est le plus difficile. On a vu certains très grands champions dans le ski ou ailleurs faire un faux pas de temps en temps. Mais jusque-là, Mercedes, on peut dire, n'a pas fait de faux pas. Donc c'est remarquable. Et pour se maintenir, c'est normal qu'on travaille justement le côté psychologique.
Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que évidemment, les pilotes ont des préparateurs mentaux. Ouais. Ceux qui sont sur le devant de la scène, bien sûr, dans tous les sports, et particulièrement les sports individuels. Mais là, il s'agit de remobiliser l'ensemble de l'équipe qui travaille dans l'ombre, parce que eux aussi, ces gens-là passent des saisons longues, difficiles, loin de leur famille.
Alors, je rappelle que le taux de divorce dans les équipes de Formule 1, c'est avéré, hein. C'est le docteur Jacques Tropna, qui est un ami, comme tu le sais, qui a été pendant 7-8 ans
médecin de la FIA.
Le médecin de la FIA. Le taux de divorce atteint 80% dans les équipes de
Formule 1. Et c'est pas du tout anecdotique, hein.
C'est pas
un petit chiffre comme ça en passant. c'est crucial pour les gens qui travaillent dans
cette discipline. Et oui, ça paraît évidemment, on se dit, oh bah c'est tant pis pour eux, ils se baladent d'un pas.
Ouais, un homme ou une femme dans chaque port, pas du tout.
Non, c'est pas vrai. Je veux dire, ces gens-là ont une famille, effectivement, ils ont des enfants, ils ne les voient pas, ils les voient très peu, parce qu'effectivement, même quand le rideau tombe en fin de saison, bah il y a encore tout un tas d'impératifs et de travail à mener.
Et juste, j'ouvre une toute petite parenthèse, mais les ingénieurs, les mécaniciens dont on parle là, ils gagnent pas des milliers et des cents. Hein.
Non, pas du tout. Bon, ils sont correctement payés, on va dire, au regard évidemment d'autres catégories, mais c'est pas, il faut pas croire qu'effectivement c'est un pandore pour tout le monde. Voilà. Et là aussi, faut faire la différence entre les ingénieurs, les mieux payés, les pilotes, n'en parlons pas, les team managers, et puis derrière, bah ceux qui sont dans l'ombre et qui doivent surtout dans des grands constructeurs comme Mercedes ou Renault, bah on peut pas avoir des différences de d'émoluments et de règlements différents. Donc il y a un vrai problème psychologique, encore une fois, et c'est normal qu'on travaille cet aspect. On en parle peu, mais je suis sûr que c'est le cas également, un côté physique également, oui. Parce que là aussi, c'est la tête bien faite, mais dans un corps bien fait, donc faut pas se laisser aller à manger n'importe quoi, dormir n'importe comment. Donc je sais que dans certaines équipes, il y a également du training au plan physique pour que les gens restent, et pas seulement ceux qui changent les roues.
Alors, on reste dans l'équipe Mercedes, oui. Lucas, tu sais que Jean-Luc aimait déjà Lewis Hamilton.
Ah oui.
Mais là, il l'aime encore plus, avec ce que tu vas me dire.
Parce qu'on connaît Hamilton sur 4 roues.
Oui,
moins sur 2 roues.
Et, oui.
Et pourtant,
c'est la fin. Il a achevé de séduire voilà. Jean-Luc.
Il a effectué quelques tours sur le circuit de Jerez avec une Yamaha de Superbike en compagnie d'Alex Loves et de Michael Van Der Mark. Et puis il a été plutôt bon, plutôt très correct pour une première. Il a chuté, mais bon, ça c'est l'apprentissage. Hein. Il faut tomber,
c'est
le métier qui rentre. Mais surtout, on a eu un peu peur chez Mercedes parce qu'il attaquait comme il fallait.
Écoute, moi je trouve ça génial, encore une fois, comme tu l'as souligné. Hein, Michael Schumacher ne m'est jamais apparu aussi sympathique que quand, après sa première partie de carrière, il s'est tourné vers la moto. Il s'est mis là-dedans vraiment. Je crois qu'il avait dans son intention de disputer vraiment des courses de moto au plus haut niveau. Malheureusement, il avait chuté assez lourdement également en Espagne avec un trauma crânien. Bon, et on connaît la suite, mais je veux dire, ce sont des gens qui sont intrinsèquement passionnés, viscéralement passionnés de sport mécanique, parce que c'est très rare hein, qu'il y ait un pilote qui vienne de l'auto et qui aille vers la moto. Quand on est multiple champion du monde, comme c'est le cas évidemment de Lewis Hamilton, qu'on a égalé Juan Manuel Fangio et qu'on vient physiquement prendre des risques pour ressentir des sensations en compagnie des meilleurs pilotes de Superbike et qu'on est obligé de calmer le jeu, c'est-à-dire de lui dire bon attends, là maintenant bouge pas parce que si jamais il se fait réellement mal, c'est un potentiel. Ben moi je trouve ça génial. De toute façon, je l'ai toujours dit, Lewis Hamilton c'est un type qui est passionné, qui a le respect de l'histoire de son sport et pas seulement. Je rappelle que John Surtees c'est le seul champion du monde à avoir été champion du monde en moto, 500 cm3 à l'époque, et en Formule 1. Bah, je ne sais pas si un jour Lewis Hamilton sera champion du monde de moto, non je plaisante, mais je sais qu'il est très proche de certains pilotes.
Justement la moto, c'est dans un instant dans Motors avec Hervé Poncharal, le patron du team Tech 3, pour évoquer la saison 2019 de MotoGP qui débutera le 10 mars prochain au Qatar. Il est 13h39, vous écoutez RMC, vous regardez RMC Sport News. Motors revient tout de suite.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
13h40 sur RMC et sur RMC Sport News Motors en direct. On est ensemble jusqu'à 14h. À 14h, vous avez rendez-vous avec Christophe Cessieux pour l'Intégral Sport. Mais tout de suite, la moto.
RMC Motors.
Gauche 90, 150 mètres, droitier, droite 120.
Le briefing.
La saison reprendra le 10 mars prochain au Qatar. Il y aura deux Français sur la grille, Johan Zarco et Fabio Quartararo. On en parle avec le patron du team Tech 3, Hervé Poncharal. Bonjour Hervé.
Bonjour Jean-Luc.
Merci d'être avec nous en direct dans Motors. Jean-Luc est là, évidemment. Lucas Vinoy
avec Louis et Lucas
est également là. Hervé, vous serez associé à KTM la saison prochaine. Ça, c'est la grande nouveauté de votre team Tech 3 après des années dans le giron de Yamaha. On va en parler longuement, mais d'abord, est-ce que vous pouvez expliquer concrètement à nos auditeurs ce que ça va changer?
Ben, ça va changer beaucoup et pas beaucoup, je serais tenté de dire, parce que on a fait 20 saisons consécutives avec Yamaha, donc c'est évident que il y a des habitudes qui se prennent au niveau de la manière de travailler. La moto, c'est toujours la même qui évolue, mais la base est la même, donc on la connaît très très bien. En plus, évidemment, on connaît tout le monde dans le service course Yamaha, donc c'est plus facile de savoir qui fait quoi. Et quand on a un problème ou une requête, on s'adresse toujours à la bonne personne. Quand on arrive dans une nouvelle structure, qui est déjà très très jeune, puisqu'ils n'ont fait que 2 ans en MotoGP, comme KTM, c'est évident qu'on tâtonne un petit peu plus au début, mais sur les choses communes,
ça reste une MotoGP, une moto de 1000 cm3, 4 cylindres, on a un manufacturier pneumatique unique, c'est Michelin, tout le monde utilise la même centrale électronique, donc il y a quand même beaucoup de choses qui vont faire qu'on sera pas totalement dépaysé.
Jean-Luc.
Oui, merci Hervé, t'es descendu de ton VTT, c'est bon?
Ah, aujourd'hui c'était vélo de route.
Vélo de route, d'accord.
Donc on est monté sur les crêtes, et d'ailleurs, petite anecdote très très rapide, on a croisé un certain Nicolas Sarkozy qui a fait la même boucle que nous, voilà.
Bon,
une petite anecdote, je ferme la parenthèse.
Plus vite ou moins vite la boucle, c'est ça qu'on veut savoir.
Et le problème, c'est qu'on l'a fait dans le en sens inverse.
Ah,
on s'est croisé. Je pense qu'on était plus vite. Je pense qu'on était plus vite. Mais lui, il a un garde du corps qui le suit, hein, donc.
Oui, c'est ça. C'est pas toi, pas encore en tout cas.
Non, j'en veux pas.
Bon, Hervé, merci d'être avec nous en tout cas dans Motors aujourd'hui. Écoute, la vraie question et la première à te poser, c'est qu'est-ce qui t'a décidé, pour quelle raison as-tu quitté Yamaha après 20 ans, comme tu le disais, pour aller chez KTM? Alors on sait que l'usine autrichienne a tout gagné dans toutes les catégories auxquelles elle s'est attaquée jusque-là, que ce soit le motocross, que ce soit l'enduro, que ce soit le Dakar,
surtout la
vitesse. Donc pour le moment, évidemment, tu l'as rappelé, ça ne fait que 2 saisons qu'elle est en MotoGP. Tu as dit que c'était pareil, bah pas complètement, je le fais exprès, mais tu le sais mieux que moi. C'est un 4 cylindres, oui, mais en V. Le châssis n'est pas le même, c'est pas un châssis en alu, c'est un châssis effectivement en treillis tubulaire. Alors qu'est-ce qui t'a décidé, allez, à signer avec KTM?
Tu sais, j'allais dire que je pense que c'est quelque chose que toi, personnellement, tu dois certainement comprendre, que beaucoup d'auditeurs, j'espère, comprendront aussi. À un moment donné, quand on aime la compétition, quand on aime le sport, on aime le challenge. Et même si on était très très bien là où on était, après 20 ans, eh ben, il s'établit un certain ronron, j'allais dire. Et ça fonctionne bien, mais on a l'impression qu'on a un petit peu fait le tour et que l'excitation des débuts, elle est plus tout à fait là. Et quand tu es dans cet état d'esprit où tu te dis tout fonctionne bien, mais c'est plus aussi, je dirais, enivrant, excitant et motivant qu'une aventure qui débute, tu te retrouves confronté aux gens de chez KTM qui ont le palmarès que tu connais et qui ont dans les yeux la lueur de la passion, de l'envie. À un moment donné, ça, c'est une rencontre. Et ils sont arrivés au moment où je me posais des questions, où je me dis... Voilà, j'ai envie d'une nouvelle aventure, et c'est vrai que la manière dont ils sont venus, dont on a envisagé le futur, en étant totalement intégrés dans leur service course, en ayant ce qu'on appelle un groupe MotoGP qui va évidemment inclure non seulement leurs ingénieurs, mais aussi Guy Coulon et Nicolas Goyon, qui sont mes deux chefs mécaniciens, où on va parler de stratégie, où on va décider ensemble du développement et des pistes. Même si jamais on sait qu'au départ on sera moins performant que ce qu'on aurait été si on était resté chez Yamaha, c'est une aventure humaine qui fait très très envie, et ça a été la première des choses. En plus, quand on connaît l'histoire de Monsieur Stéphane Pierreur qui a repris KTM, qui était une marque moribonde fin des années 80, qui en a fait la société dynamique que c'est, j'ai énormément d'admiration et de respect pour les entrepreneurs. Donc voilà, toutes ces choses là, c'est plus sur le plan humain que j'ai adhéré à ce projet et j'ai eu envie d'en faire partie. Et évidemment, tu sais très bien que plus tu pars bas, si jamais d'aventure t'arrives à décrocher la timbale, eh ben plus le plaisir sera grand et plus on aura l'impression d'avoir justement fait partie de cette aventure. Et la KTM sera peut-être d'ici 2 ou 3 ans une moto qui aura un petit peu d'ADN Tech 3. Voilà. Donc c'est ça qui m'a motivé et qui m'a donné envie d'aller voir ce qui se passe du côté de l'Autriche.
Alors, on rappelle aussi, Hervé, que il y aura seulement 4 motos KTM hein, sur la grille de départ en MotoGP, dont les 2 tiennes du Team Tech 3. Alors, une avec un pilote, et c'était un pari extrêmement audacieux que tu as fait l'an dernier, Afish Syarin, hein, le pilote malais, qui a largement démontré qu'il avait sa place puisqu'il termine 16e au championnat du monde. C'était audacieux. Et puis un certain Johann Zarco. Alors, Johann Zarco a quitté Tech 3, mais est-ce qu'il l'a vraiment quitté complètement puisque maintenant il est pilote d'usine KTM?
Écoute, Johann Zarco, c'était une histoire fabuleuse. Sur le plan sportif, évidemment, dans un premier lieu, il a fait, je sais plus combien, mais quand même un certain nombre de podiums, beaucoup de premières lignes, des pole positions. En 2017, il a été rookie de l'année plus meilleur pilote indépendant. En 2018, il a redécroché le titre de meilleur indépendant. C'est quelque chose qui nous a marqué. Sur le plan humain, on a eu une relation incroyable. Donc, quand on a On a su. Par contre, il y a une chose que je tiens à dire, c'est que on ne s'est pas concerté. Lui a fait sa négociation et a pris la décision d'aller chez KTM, et nous aussi, mais sans nécessairement se demander l'un l'autre si on pensait que c'était une bonne chose. Et c'est assez drôle d'ailleurs de voir que tous les deux, on a pris la même direction. Évidemment, Johan signant chez KTM, KTM se cherchant un co-leader aux côtés de Paul Espargaro, c'était normal que Johan soit intégré dans l'équipe officielle usine. Même si on aura les mêmes matériels qu'eux. Donc, je l'ai laissé partir. De toute façon, je n'avais pas le choix. Mais il y a quand même un lien qui va rester très fort. Ouais. Parce que déjà, on a vu, on a fait deux séances d'essai, une à Valence et une à Jerez en fin de saison. Là. Et le soir, Johan, il passe nous voir dans notre hospitalité.
Mais j'allais dire, il se trompe pas de stand hein, quand il rentre dans les pits, il s'arrête pas chez vous.
Bon, tu sais, on a les mêmes partenaires. Les
oui,
mêmes
oui.
Couleurs,
c'est bon, ça, je rigole.
C'est la famille Red Bull KTM, donc il y a pas de souci. Mais en plus, franchement, pour l'instant, c'est une tribu. Je veux dire, c'est une grande famille, donc il peut venir quand il veut. On échange beaucoup. Ça faisait partie aussi des choses que je n'avais pas systématiquement chez Yamaha et qu'on aura là. On aura les mêmes motos que lui, donc le même millésime, on aura les mêmes développements au même moment que lui. Et s'il y a des choses qu'il veut et dont il a besoin de discuter avec Guy Coulon, avec Alexandre Méran, qui était son ingénieur acquisition, son ingénieur piste, il le fait, il le fera. Et je pense que personne chez KTM ne sera contre, bien au contraire, parce que, encore une fois, on veut créer ce groupe MotoGP, travailler tous ensemble dans la même direction, et bien évidemment, Johan sera encore une fois le co-leader avec Paul Espargaro. J'espère qu'il deviendra le leader de la marque. Et voilà. Mais on va pas certainement complètement couper le lien qui nous unit à Johan Zarco, jamais.
Justement, Hervé Poncharal, quelle peut être, et plus encore, quelle doit être l'ambition de Johan Zarco avec KTM la saison prochaine?
Ben, on a vu récemment un multiple champion du monde, celui qui était considéré comme un des deux ou trois meilleurs pilotes chez Yamaha à l'époque, Jorge Lorenzo. Il a signé chez Ducati en ayant ses quatre titres de MotoGP derrière lui. Ça a été compliqué. Il a fait une année vraiment où il s'est cherché, où il a tâtonné. Ouais. Il a attendu une demi-année supplémentaire pour faire son premier podium au Mugello en Italie. Donc on sait que l'accoutumance n'est pas aussi simple que ça. Comme tu l'as dit, la Yamaha a un châssis alu avec un 4 en ligne. C'est une moto très simple, enfin pas très simple, mais très facile d'accès. On l'a vu avec
plus
les pilotes
de Morbidelli
et Quartararo. Là, on a un V4 sur un châssis tubulaire acier. Donc, il va falloir qu'il s'habitue. Il va falloir qu'il la comprenne. Il va falloir qu'il a, avec sa nouvelle équipe technique, qui crée ce langage qui fait que on arrive à se comprendre quasiment en un clin d'œil quand le pilote rentre au box pour savoir ce qui va pas et être efficace non seulement sur quel réglage faire, mais aussi dans la rapidité d'action pour le mettre en route. Donc, c'est difficile de dire. Mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'il fasse jeu égal avec Paul Espargaro, qui la connaît très bien. Et en tout cas, qu'il soit au début de la saison, si sur les 4-5 premières courses, il est dans le top 8, ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal. Et je pense que c'est ça l'objectif.
Hervé Poncharal, le patron du Team Tech 3 et l'invité de Motors en direct sur RMC et RMC Sport News. Question de Lucas Vinois.
Vous le disiez, Johan Zarco a choisi KTM. C'est une bonne nouvelle pour vous puisque vous allez pouvoir échanger plein de choses, des données, des retours en piste. On sait que Johan est toujours très précis là-dessus. On sait aussi qu'il a refusé d'aller chez Honda aux côtés de Marc Marquez. Vous qui le connaissez très bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Johan Zarco a fait ce choix quand on connaît les résultats incroyables que connaît Honda depuis des années en MotoGP?
Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut lui demander parce que il y a.
Mais vous le savez, ah non, vous le savez, vous êtes proche de lui, vous le savez très bien.
Non, oui, mais enfin, je pense que celui qui peut le mieux parler de Johan Zarco et de ses choix et du pourquoi et du comment, c'est lui. Donc, je me suffirai jamais à Johan Zarco. Par contre, ce que je pense, c'est que oui, la Honda est championne du monde depuis combien d'années? Beaucoup. Qui est champion du monde sur cette moto? C'est Marc Marquez. Où sont les autres pilotes Honda, Pedrosa, Crutchlow, derrière Johan? Donc, c'est évident qu'en moto, le pilote, comme dans beaucoup de sports mécaniques, mais peut-être plus en moto encore, le pilote est prépondérant dans l'obtention du résultat. Donc, je suis pas certain que Johan Zarco il l'ait eu aussi simple que ça sur la Honda. Je suis pas sûr que la Honda est une machine très très facile d'accès. Mais en tout cas, quand KTM est venu, comme ce que je vous ai expliqué il y a quelques minutes, avec l'enthousiasme, avec lui proposant une place de leader, non seulement sportivement parlant, mais aussi techniquement parlant, pour développer cette machine. Johan adore la technique. Johan se sentait capable de diriger un service course pour faire évoluer une machine et l'avoir sur mesure. C'est certain que s'il avait été chez Honda, de toute façon, le chef d'orchestre, celui qui décide là-bas, c'est Marc Marquez. Donc, à ce moment-là, quand il a eu les deux discussions, il a vu qu'il était peut-être plus désiré, plus aimé, et qu'il aurait peut-être plus la possibilité de faire ce que tout pilote rêve, c'est d'être le chef d'orchestre d'une usine chez KTM. Voilà. Alors, et encore une fois, le challenge sera encore peut-être plus difficile, mais plus beau si ça fonctionne. Et quand on rencontre ce groupe chez KTM, on ne peut pas ne pas adhérer et avoir envie de travailler avec eux. Donc, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et je pense qu'il y en a eu beaucoup aussi pour Johan. Je pense que l'élément humain n'est pas à négliger. Et c'est important de travailler dans un groupe qui vous désire vraiment très 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 fort.
Jean-Luc.
Ben voilà, oui, je crois qu'il a répondu, Hervé. Finalement. Il a dit non, et puis il a répondu. Non, mais c'est évident qu'entre être numéro 2 chez Honda obligatoirement avec un Marquez qui, de par sa présence et comme l'a dit également Hervé, bâtit la moto pour lui. Parce que ce qui est important dans les motos, et ce qui a manqué un moment à Johan, et Hervé ne me détrompera pas, c'est la confiance à un moment, notamment dans l'avant. La confiance du pilote, le feeling du pilote est là.
Absolument.
Il va pouvoir construire la moto qu'il souhaite. Finalement, bien si sûr. On doit travailler, même modifier le cadre, modifier un certain nombre de paramètres, il pourra le demander, alors que chez Honda, il aurait dû se plier naturellement au desiderata de Marc Marquez, qui est un pilote exceptionnel.
Et je peux vous dire que j'ai passé la semaine dernière au service course KTM en Autriche. C'est incroyable. Alors, encore une fois, la moto, pour l'instant, c'est pas la meilleure moto du plateau, clairement. Hein. Donc, il faut pas s'attendre à ce que Johan se batte pour des podiums ou il y a des courses où un pilote est 3. Mais par contre, quand vous voyez l'envie, mais aussi l'outil de travail qu'ils ont là-bas et la capacité qu'ils ont de vous faire un châssis, je dirais quasiment en 48 heures. Il y a vraiment un outil là-bas incroyable. Donc si Johan arrive à fédérer ces gens et à être suffisamment fort dans sa tête pour leur expliquer ce dont il a besoin pour aller vite, je pense que l'histoire peut être très très belle.
Alors, deux questions, j'en aurais encore 1000 à te poser, mais deux. La première, quelle est la durée de ton contrat avec KTM? Je pense que tu peux nous dire ça. Tu as dit travail dans la durée.
C'est aussi quelque chose qui a été important pour moi, parce que quand on se retrouve tous les ans à se demander ce qu'on va faire la saison suivante, c'est très compliqué à gérer une société. J'ai la possibilité, j'ai signé 3 ans.
D'accord.
2019, 2020, 2021, avec KTM et les partenaires sponsor autour. Donc c'est quelque chose qui pour moi, pour ma société, va me permettre de voir l'avenir différemment.
Bien
et
sûr.
De travailler avec moins dans l'urgence et moins
sur
de pression,
la durée,
sur l'immédiateté des résultats.
Dernière question.
Et la deuxième, tu y as en partie répondu. Tu as pu comparer évidemment chez Yamaha, où tu t'es rendu à de nombreuses reprises, la capacité du service course Yamaha et celle de chez KTM. Qu'est-ce que tu dirais pour schématiser et pourquoi KTM, demain ou après-demain, peut être au moins aussi performant que Yamaha?
Alors tu sais, moi je déteste les gens qui quittent leur femme et qui disent les pires choses sur leur femme quand ils l'ont quittée. Donc j'ai vécu des choses fabuleuses avec Yamaha. Je les ai pas quittés parce que j'étais en désaccord. J'ai eu quelqu'un qui a trouvé des mots pour que j'ai envie d'aller plus là-bas que de rester où j'étais. Franchement, j'ai travaillé Honda avec Suzuki et bien sûr Yamaha. J'ai jamais vu un service source comme ça. J'ai jamais rencontré le CEO, le patron, le propriétaire qui venait me voir et qui avait des étincelles dans les yeux au niveau de la compétition comme là-bas. Alors je dis pas que ça va le faire systématiquement, mais en tout cas encore une fois, tu ne peux pas ne pas avoir envie de leur dire, vous avez besoin de moi, parce qu'il me le dit en permanence, we need you Hervé. C'est pas moi qui me touche. Donc,
t'es un autrichien, tu dis comment?
Je leur ai dit, I'm your man.
Merci beaucoup Hervé Poncharal d'avoir été avec nous en
génial.
Direct dans Motors.
Salut Hervé.
Bonne fête à vous.
Bonne fête à tous et à très très bientôt pour les 998 questions qui restent.
On y croit.
À très vite.
Salut
Hervé. Absolument. Le début de la saison de MotoGP, ça sera le 10 mars prochain pour le premier Grand Prix au Qatar. 13h56. Merci Lucas Vigne d'avoir été avec nous.